Je venais de faire 6 heures ou 5 heures de TGV, hein, je partance de Lille pour Courchevel, donc on arrivait à Moutier, et à la sortie du TGV, on est pris par les frimas, le froid, la gelée et tout, et là, ben, je suis dans le bus, la navette qui nous conduit à Courchevel, 16 km, et on arrête régulièrement. Alors, ce qui m'intéressait à un moment donné, pendant tout le voyage d'ailleurs, ou au départ, c'était ce rideau, hein, c'est à travers la vitre du bus, le bus, oui, là, ça c'est la vitre, le rideau jaune, ça m'interpellait. Là, vous avez, c'est très humide, c'est l'humidité de l'extérieur qui gèle, hein, donc les fenêtres un peu, hein, cette matière m'intéressait. Et lorsqu'on est arrivé à un arrêt de bus, eh bien, dans un petit village entre Courchevel et Moutier, il y avait cet arrêt où il y avait quelqu'un frigorifié là, qui attendait. Et il y avait la neige, un mur de neige derrière, ben voilà. Donc, pourquoi j'ai fait cette photo? Parce que dans la forme, le cadre m'intéressait depuis 4 ou 5 km. Ça, j'en ai fait 5, 6, 7, 8 où il n'y avait rien derrière, ou des arbres, ou des choses comme ça. Mais la photo ne donnait rien. Le hasard a fait que le bus s'arrête, j'avais toujours le même cadrage, ça n'a pas bougé, et clac, la photo s'est construite. Le gars était là.
On a presque l'impression que c'est une peinture. Hein.
Oui, mais oui, ça c'est quelque chose que j'ai reçu de Patrick Devresse. Patrick Devresse est un photographe qui, à la fois, c'est rigoureux dans son cadrage, dans sa technique, etc., etc., où il y a du fond, très souvent il y a du fond également, hein, ça amène à des réflexions et tout. Mais également, Patrick, c'est quelqu'un qui aime la matière. Mais sa matière, à Patrick, elle reste très précise. Autrement dit, s'il avait fait cette photo, vous auriez vu de la matière. Vous auriez vu, ah ben il y a de la glace, il y a du givre, et ceci, cela. Moi, c'est pas mon tempérament. Moi, ce que j'ai vu, c'est la matière. Mais la manière dont je fais la prise de vue, où il n'y a pas du tout de mise au point, paf, comme vous dites, ça donne l'impression de peinture. Alors maintenant, est-ce qu'une photo, une belle photo, doit donner l'impression d'être une peinture?
Michel Stomont photographie la banalité qui l'entoure. Peu importe le sujet, seul l'impact visuel et son souvenir comptent. Il était invité à exposer son carnet de voyage par l'association Incarna à l'Office culturel d'Arras pour la clôture des expos photos de la saison. Rencontre avec cet artiste photographique lors du vernissage. On aborde avec lui sa passion au travers de son travail sur le fond et la forme. Michel Stomont, donc on est ici pour admirer votre exposition, l'une des dernières d'ailleurs qui aura lieu à l'Office culturel. D'ailleurs, je crois que vous connaissez déjà les lieux, hein. Vous pouvez m'en parler un peu, vous avez des souvenirs déjà de cet office.
Oui, oui, bien sûr, c'est d'ailleurs une excellente initiative pour la photographie en général et pour finalement les habitants d'Arras, hein, parce que mettre comme ça en proximité, en toute modestie je le dis, mais quand même un certain nombre de talents, hein, qui se sont succédés ici, c'est merveilleux. Et moi-même, oui, donc j'ai eu l'occasion d'exposer une fois en groupe et deux fois en individuel. La dernière fois, c'était pour une expo qui s'intitulait « Olga sur la Volga ». C'était d'ailleurs une commande que m'avait faite Incarna, une commande particulière pour ici.
Votre expo s'appelle « À l'insu de mon iPhone ». Vous pouvez m'expliquer un peu le titre ?
Oui, alors à l'insu de mon iPhone, je voyage beaucoup et je voyage donc avec un matériel très restreint qui est mon iPhone, et il se fait que avec la technologie maintenant, on arrive quand même à avoir un certain nombre de millions de pixels, chose qu'on n'avait pas avant sur un simple iPhone. Donc voilà, ce carnet de route, j'ai eu envie de répertorier quelque part sur un support quelconque tous ces clichés que je faisais au jour le jour, comme ça, parce que j'en avais envie. Alors ça pouvait être derrière chez moi, sur la route en allant sur l'île, au Kenya, Canada, peu importe, là où j'étais. Et je me suis dit, le carnet de route, le carnet, tout simplement, c'est pas mal. Mais encore une fois, ce carnet n'était pas du tout destiné à être montré, encore moins à être installé sur Simez. C'était simplement un album de famille, quoi, mais personnel, qui me permettait de temps en temps de feuilleter et de dire « Ah bah oui, j'ai été là, j'ai fait ci, j'ai fait là, voilà ».
Vous disiez tout à l'heure, lors de la présentation, que ben, vous étiez un photographe qui ne se servait pas évidemment de ces nouvelles technologies. Comment vous êtes passé de l'argentique à cette nouvelle technologie ?
Je peux vous dire que l'argentique, je connais. Parce que j'ai fait mes débuts en 85 dans un photoclub renommé, c'est le photoclub de Denain, qui l'est toujours d'ailleurs, très renommé. D'ailleurs, à l'époque, on y rentrait que parrainé, hein, uniquement. Donc j'ai fait mes premières armes à Denain, où là je peux vous dire que le laboratoire en noir et blanc, c'était quelque chose de terrible. Donc j'ai bien connu les techniques noir et blanc, et lorsque évidemment les balbutiements informatiques se sont pointés au niveau de la photographie, je me disais, comme tant d'autres d'ailleurs, moi le numérique, jamais. Et puis il faut reconnaître que on y est tous arrivés, mais on y est arrivé au moment où le numérique nous permettait d'approcher et voir maintenant d'égaler ce qu'on pouvait obtenir sur un tirage classique. Donc maintenant, nos tirages noir et blanc, je n'en fais plus du tout. Je viens d'ailleurs de donner il n'y a pas longtemps à un photoclub mon dernier agrandisseur, et tout simplement parce que la magie n'est plus pareille, hein, bien évidemment, mais les résultats sont là, parce qu'il y a eu une évolution au niveau des papiers, des encres, etc., etc. Donc j'y suis arrivé, je vais dire, tout à fait naturellement, par simplification de cette technique qui, quand même, était très prenante au niveau noir. Alors la couleur, n'en parle pas, je n'en faisais pas. Alors bien évidemment, depuis tant que j'utilise des techniques numériques, je fais de la couleur. C'est beaucoup plus facile. Hein. Voilà, tout simplement. Pour moi, ça apporte beaucoup de choses. Et je ne suis pas le seul. Hein. Patrick Devresse, pour moi, c'est une référence. Je pourrais parler de bien d'autres photographes, mais lui, en plus, il est connu ici. Patrick Devresse, c'est pareil. Hein. Il a quitté absolument la chambre noire. Hein. Il y a peu de temps, c'est vrai, mais il l'a quitté parce que soyons de notre temps, tout simplement. Hein.
Alors donc, vous disiez aussi également tout à l'heure qu'il y a le photographe professionnel et le photographe amateur. À votre avis, qu'est-ce qui les différencie vraiment ?
La première des choses, c'est que le photographe professionnel vit de sa photo. Eh oui, il faut reconnaître que parmi ces photographes professionnels qui font du tout venant, attendez, c'est pas péjoratif ce que je dis, qui font moins maintenant, mais qui faisaient de la vente d'appareils photo, du développement, etc., qui couvrent des mariages, des commandes, on va dire, sociétales ou des choses comme ça. Oui, ok, mais sur le plan amateur, c'est vrai que là, la grosse différence, l'amateur ne vit pas de sa photo, amateur, amarré, aimé. Hein. Donc il aime, c'est quelqu'un qui va à fond, qui aime, qui va passer 100 fois plus de temps, peu importe, ça va lui coûter, peu importe, il aime, il fait. Pour lui, il peut également arriver au summum, comme Depardon, il y en a des amateurs. Hein. Mais c'est toujours un facteur chance, comme je l'ai dit, facteur chance, être là au bon moment, être connu au bon moment, et puis voilà. Hein. Donc au niveau artistique pur, pour moi, il n'y a pas de différence entre l'amateur et le professionnel. Par contre, les chemins pour y arriver, il y a de grosses différences. Et là, je reviendrai simplement à cette histoire de photos de mariage, par exemple. Il est évident que quand un professionnel se décarcasse pour essayer de trouver le mariage, pour ceci, cela, il va demander une certaine somme, et qu'il y a l'amateur à côté qui propose par internet ou ceci la même chose, trois fois moins cher ou deux fois moins cher, il faut reconnaître qu'il faut quand même se poser des questions. Donc je pense que il y a de la place pour tout le monde, au summum bien évidemment pour tout le monde, mais qu'il faut respecter le professionnel, de même qu'on doit respecter l'amateur, c'est tout.
Alors vous qui avez quand même l'œil d'un photographe aguerri, pour vous, c'est quoi une bonne photo ?
Il n'y a pas de bonne photo. Il y a des photos dont on va se souvenir.
Ou alors une belle photo ?
Alors, une belle photo, c'est autre chose. C'est autre chose, parce que là, c'est très subjectif. Il y a certes des canons, hein, comme il existe en peinture, ceci, vous connaissez bien, en photographie, il y a la règle des tiers, il y a ceci, il y a cela. Donc, une bonne photo, on serait tenté de dire, c'est une photo dont on va se souvenir, bien évidemment, mais qui est également équilibrée, avec un tirage sérieux. Une bonne photo, elle est réalisée techniquement, correctement, avec respect, hein, pour le spectateur. Elle, à la limite, on va s'en souvenir. Une belle photo, c'est le coup de cœur, c'est tout. C'est le problème d'ailleurs des jurys dans les grands concours et les choses comme ça. Ils vont pas forcément sortir la plus belle photo, ils vont sortir celle qui a fait l'unanimité.
Mais c'est surtout qu'une photo, quand on la regarde, généralement, c'est d'abord l'esthétique et le choix du sujet.
mis en valeur.
C'est une position. Hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, je parlais plus au niveau de la forme.
Hein,
on est bien d'accord. On peut comparer ça avec... moi, je suis un homme. Hein, je vois une dame à l'aspect agréable. Je peux avoir un coup de cœur. Hein, et puis après, on va gratter, on va voir le fond. Hein, bon. Bon, alors effectivement... Pour celui, mais là j'estime que là on avance déjà. On avance déjà un peu dans notre conception de la photo et également dans la manière dont on regarde les choses. Là on y met le fond. Évidemment, hein, on sait très bien et vous le savez bien que dans une photo il y a à la fois la forme et le fond. Alors l'idéal, bien évidemment, l'idéal c'est de faire une forme qui soit belle pour vous et qui ait du sens ou qui veuille dire quelque chose. Alors là, bien sûr, on a tout fait. Vous savez, quand je parlais de Cartier-Bresson tout à l'heure, hein, là, pour lui, la photo, c'est comme le tireur à l'arc. Hein. C'est le photographe, eh bien, il vise. Hein, donc la flèche, il y a la flèche, donc il y a la tête, il y a l'œil et il y a le cœur. Hein. C'est les trois réunis. Le cœur, c'est le fond. La tête, c'est le fond. L'œil, c'est la forme. Hein. Donc bien évidemment, lorsqu'une photographie bien réalisé, donc avec au niveau de la forme, bien équilibré, etc., qui attire, dont vous allez vous souvenir, et qu'en plus, vous lui trouvez du fond, elle veut dire quelque chose pour vous, ou pour quelqu'un d'autre, de manière différente, peu importe, mais elle fait réfléchir, elle provoque. Ce sont d'ailleurs ces photos-là dont on se souvient, et ce sont souvent ces photos-là parmi les grands photographes qui sont finalement sélectionnés dans leur travail pour éditer, par exemple, hein, ou pour faire une couverture.
On est toujours en compagnie de Michel Stomont, artiste photographe. Il présentait son expo « À l'insu de mon iPhone » à l'Office culturel d'Arras. Ce qui est intéressant dans votre exposition, c'est qu'elle est très éclectique dans sa mise en forme. Et en même temps, on voyage beaucoup. On a l'impression que chaque photo raconte une histoire. Ce qui n'est pas toujours évident quand on regarde des expositions, on a l'impression qu'il y a une thématique de développer, point barre. Et là, vous le disiez tout à l'heure, d'ailleurs vous nous avez donné la preuve en expliquant, il y a une histoire à chaque fois et des fois ça part de rien.
Voilà, ça part de rien. Pourquoi de rien ? Parce que des fois, et même assez souvent, ça part... de la forme. J'ai vu quelque chose, vous savez, mon regard, quand Patrick disait tout à l'heure qu'il me croyait mort photographiquement, mais finalement, il a encore l'œil, l'œil, on l'a ou on l'a pas, hein, de toute façon, ça je pense que, je ne vais pas dire que c'est inné, on ne va pas rentrer dans ces... Mais on regarde d'une certaine manière, si bien qu'il y a même des fois, ça m'ennuie un peu, parce que j'ai tendance à avoir une vision qui cadre. Et vous voyez, moi j'adore le carré, donc ça rétrécit encore, si bien qu'en voiture, puisque souvent, comme vous le dites, je voyage beaucoup, 99% de mes photos sont faites en voyage. Alors en voyage, ça peut être à l'étranger ou chez moi, ou la route entre l'Andrecy et Lille. Donc il m'arrive très souvent de cadrer, et quand je cadre, ça devient dangereux. Parce que je ne vois pas ce qui se passe à droite ou à gauche. Tout ça pour vous dire que ce genre de photo que je présente ce soir, évidemment, ça peut partir de rien, du banal. Je m'arrête, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je m'arrêtais à tel endroit parce que j'avais l'habitude à cet endroit de fumer un petit peu ou des choses comme ça, alors que je n'avais pas le droit de le faire. Et je m'arrêtais toujours au même endroit, mais bien évidemment, avec la pluie, la neige, le vent, tout ça, systématiquement, je photographiais. Et voilà. Hein. Mais parfois, et comme vous le dites... Ça va plus loin. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle n'interpelle pas parce que ça devient plus intime. Hein, telle ou telle photo, je l'ai faite pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué, pour quelques-unes, voilà, c'était un moment privilégié ou ceci, cela. Donc forcément, je me dis, ça, moi, je le comprends, mais le spectateur, il ne va pas le comprendre. Ben, je suis très heureux, vous me dites que certaines vous font réfléchir ou inventer ou voyager. Eh bien, c'est parfait, c'est ce que je recherche.
C'est ce que je disais, c'est que quand on les regarde, ben, on peut peut-être en choisir une, d'ailleurs. Au hasard, l'une de vos préférées ou une que vous voudriez expliquer, par exemple, aux auditrices et auditeurs qui ne voient pas évidemment la photo, le plus difficile, c'est d'essayer de leur montrer.
C'est une photo qui, dans la forme, bon, on ne peut pas dire que ce soit terrible. Hein. Elle n'accroche pas à l'œil, il n'y a pas de couleur. Seulement pour moi, elle est importante parce que si on lit hein, sur un certain nombre de mes photos de carnet de voyage, de carnet de route, on va dire, j'ai noté un petit mot, une petite phrase, sur d'autres, rien. Celle-là, c'est marqué, elle-là, et son autoportrait. Eh bien, pour moi, cette photo-là, évidemment, elle raconte beaucoup. C'est une photo carrée, hein, petite, 6 cm sur 6 cm, en fond un peu plus palo, vous avez ma petite fille, hein, que j'ai photographiée il n'y a pas longtemps dans les rues de Lille avec mon iPhone. Et en superposition, il y a un dessin d'enfant qui représente un portrait, a priori d'une dame ou d'une demoiselle. Alors bien sûr, pour le spectateur, bah oui, il a voulu faire un rapprochement entre une caricature. Eh bien, c'est pas ça du tout. En fait, c'est bien ma petite fille, et j'ai superposé son autoportrait qu'elle avait fait lorsqu'elle était en maternelle. Et là, la photographie de ma petite fille, elle a 14 ans maintenant. Et ça donne ça. Donc, évidemment, je vais m'empresser de lui offrir incessamment sous peu. Mais vous voyez, ce genre de choses qui va trop rien dire au spectateur. Le spectateur qui va voir ça, il va dire « Ah ben oui !» Il va dire « Ah, c'est une belle photo !» Comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça, il a le coup de cœur, ça lui plaît. Ou alors, il va dire « Ah ben, techniquement, c'est peut-être pas terrible, mais après, ben si, finalement, techniquement, c'est peut-être une bonne photo. » Mais moi, j'y mets en plus, donc, le fond, là. Hein, et ça devient pour moi, voilà, mais pour moi.
Hein. Alors moi, quand je l'ai vu tout à l'heure, moi je me suis dit, oh, il a osé.
Ah, il a osé. Alors, vous voyez, eh bien, écoutez, je vais vous demander le pourquoi de votre...
Eh bien parce que justement, je trouve qu'il y a le regard,
oui,
du dessin et le regard de la jeune fille qui sont carrément presque dans la même direction, et on a l'impression que la photo a été prise avec les deux, en fait, tout simplement. Et on n'a pas l'impression qu'il y a une superposition, même si on devine qu'il y a un dessin quand même devant.
D'accord.
Ça, c'est peut-être aussi l'imagination du spectateur.
Tout à fait. Eh bien, voilà, je suis très heureux de votre interprétation personnelle, parce qu'elle me sied parfaitement, hein, elle me va très bien, alors que moi, j'avais pas pensé à ça du tout. J'avais pas pensé. Mais maintenant que vous me le dites, bien évidemment, j'ai quand même, comme vous venez de me le dire, et je vous en remercie, un œil photographique, et bien évidemment, je m'aperçois qu'il y a tout ce que vous venez de dire, vous voyez.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première photo que vous avez prise ?
Ah oui. Ah oui. Ah oui, je m'en souviens. La toute première photo que j'ai... Non, je vais mentir un peu. La toute première, à vrai dire, je me souviens davantage de l'appareil. Hein, c'était un Ultrafex, vous savez, avec les grosses bobines 6-9, avec les photographies dentelées. Il fallait attendre 3 semaines, 1 mois avant d'avoir les épreuves. La première véritable photo qui, pour moi, est une photo que j'ai maîtrisée, enfin, c'est-à-dire que je l'assume totalement, c'était en terminale. J'avais un prof de physique qui... j'étais pensionnaire, et ce prof de physique nous a intéressé à la photo, au développement noir et blanc. Il avait mis en place un petit labo, on développait dans des soucoupes, des machins, des trucs, et Je ne photographiais plus à l'époque. Par contre, j'avais déjà ma petite fiancée, qui était pas tout à fait fiancée à l'époque et qui est ma femme maintenant. Hein, et elle avait quelques négatifs de son chat. Je lui ai demandé ce négatif, qui était un 6-6. Hein, à l'époque, on faisait beaucoup de 6-6. Et voilà, ça a été mon premier. Pour moi, comme je me suis investi en totalité, à la fois, non pas le développement du négatif, mais le tirage photo. J'ai vu la photo arriver, j'ai aperçu, comme j'ai toujours appelé après, j'ai eu cet orgasme visuel au moment où la photographie apparaît. Hein, c'est la magie de... Et donc, pour moi, c'était véritablement la première photo, donc un chat.
Par rapport à votre œil de photographe, la photo manquait. Ah, pas de bol, c'était pas le bon moment.
La photo manquait. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous entendez par photo manquée ?
C'est-à-dire que c'est celle que vous avez vue avec votre œil de photographe, que vous l'aviez déjà photographiée dans votre tête, mais qui malheureusement n'a pas pu être réussie parce qu'il y a eu un mouvement ou quelque chose qui a changé.
Ah ben c'est pas grave. Ah ça, je peux vous dire que pour moi, ce n'est pas grave. De la même manière, et ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous l'affirme. Et quand, dans le viseur, je m'apprête à déclencher et que subitement je me dis, mais ça c'est... Ça a déjà été fait, c'est fait. Je ne déclenche pas. Et deuxième anecdote. Alors celle-là, elle est plus profonde. C'est l'époque où je travaillais au Leica. C'était l'appareil de Cartier-Bresson, de beaucoup d'autres grands reporters, ou ceci, cela. Bon, enfin, un appareil très discret, etc. Bon, donc j'avais un M6. C'est un de mes premiers voyages. J'étais là où il y a eu malheureusement ce tremblement de terre affreux, à Katmandou, dans la vallée de Katmandou. Nous étions partis en vélo. On avait loué des vélos, on partait en vélo, on était 4 ou 5. Nous étions donc en vélo, moi j'avais mon Leica en bandoulière, et nous sommes arrivés tout à fait par hasard, par des chemins vraiment pas faciles, à tel point qu'on se demandait toujours, mais est-ce qu'on va avancer, parce qu'on ne va jamais pouvoir revenir. Nous sommes arrivés dans un village, mais alors, authentique de chez authentique, vous savez. Avec, je me souviens des dames qui prenaient, non pas leur bain, en fait c'était comme une douche, hein, pratiquement nu, mais qui ne se retournait même pas. C'est pas le genre du Népal. Hein. On a assisté à un sacrifice d'un bœuf ou je sais trop quoi. Les gens se retournaient même pas, alors que pourtant on avait bien une apparence d'étranger. Et là, j'ai commencé, clac, clac. Les cas, c'était pas automatique, c'était manuel. Je déclenche, je réarme, je déclenche, je réarme, je déclenche. Je peux plus réarmer. Plus de films. Et j'en avais pas. Je les avais oubliés. Et je me souviendrai d'une chose. Moi, j'étais pas content, je peux vous dire. Mon ami, à l'époque, m'a dit « Ne t'inquiète pas, Michel. Je peux te certifier que toute ta vie, quand tu fermeras les yeux, tu verras ce que tu vois encore maintenant. » Et ça, c'est la vérité. Alors maintenant, vous me direz, oui, pour moi, c'est bien. Mais j'aurais pu montrer ces photos-là, je ne pourrais jamais les montrer. Mais comme je suis amateur, que j'aime la photo pour moi-même, bien sûr, et que je me suis dit, bon, et puis c'est très bien passé. Donc, si je rate une photo, je rate une photo. Voilà, c'est tout.
L'endroit ou la photo que vous auriez toujours voulu prendre, mais que vous n'avez pas encore prise, justement.
Écoutez, je vais vous répondre très simplement. Il n'y a pas d'endroit. C'est tout simplement la photo que je ferai demain.
C'était un entretien avec le photographe Michel Stomont qui proposait au public son expo intitulée « À l'insu de mon iPhone » à l'Office culturel d'Arras. Il était invité par l'association Incarna.